Science Info.
L'arme de l'attaque informatique sous des formes variées semble donc devenir un outil privilégié de la diplomatie russe. Il y a eu le dossier de l'enquête menée aux États-Unis après la présidentielle de 2016, le piratage de boîtes mail de dirigeants démocrates. Il y a eu en France des soupçons d'intrusion chez des proches d'Emmanuel Macron au printemps dernier. Et voilà maintenant, venu de Grande-Bretagne, des accusations sur une ingérence lors du référendum sur le Brexit. En l'occurrence, Aude Soufi, vous êtes à Londres. Il ne s'agissait pas de piratage, mais de dissémination de fausses nouvelles.
Plus de 45 000 messages ont été mis en ligne par des comptes Twitter russes en 48 heures, juste avant le référendum sur le Brexit. Au total, plus de 150 000 comptes basés en Russie ont tweeté en anglais à l'approche du scrutin, la plupart appelant au départ britannique de l'Union européenne, avant de brutalement devenir inactif. C'est ce que révèle le quotidien britannique The Times, reprenant les travaux de chercheurs du Pays de Galles et de Californie. Dès lundi, la première ministre Theresa May évoquait d'ailleurs les attaques de pirates informatiques russes pendant les élections en Europe.
Le but est de faire de l'information une arme en déployant ces médias dirigés par l'État pour diffuser de fausses informations et des images trafiquées dans le but de semer la discorde en Occident et de saper nos institutions. Donc j'ai un message très simple pour la Russie. Nous savons ce que vous faites et vous n'y arriverez pas.
Difficile toutefois de savoir quel impact ont pu avoir ces messages sur le choix des citoyens britanniques au moment du vote. Moscou, de son côté, dément toutes les accusations, les jugeant irresponsables et sans fondement.
Démenti évidemment venu de Moscou, mais à Londres, le patron national de la cybersécurité n'en croit pas un mot. La Russie, dit-il, cherche à ébranler le système international. Quelle est la réalité de la menace? Quels sont aussi les outils pour y faire face? Accessoirement, les Russes sont-ils les seuls à jouer à ce genre de jeu? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Bonsoir, Nicolas Arpagian.
Bonsoir.
Vous êtes directeur scientifique à l'École des hautes études de la sécurité et de la justice et vous avez publié au PUF la cybersécurité. Et au téléphone, Philippe Migaud, bonsoir monsieur.
Oui, bonsoir.
Vous dirigez-vous le Centre européen d'analyse stratégique. Pour y voir clair déjà, Nicolas Arpagian, de quoi parle-t-on en l'occurrence? Je disais, c'est pas du piratage, c'est déstabilisation via les réseaux sociaux, des fake news pour susciter l'attention, c'est on crée des comptes, des multiples.
Voilà, c'est la vieille activité de désinformation. Simplement, avant, pour désinformer, il fallait soit avoir des budgets publicitaires pour éventuellement passer des messages de communication, soit influencer des journalistes qui allaient eux-mêmes relayer des informations. À l'ère du numérique, on dépasse ce stade-là. Et on va pouvoir prendre la parole avec des comptes Facebook, avec des comptes Twitter qui sont créés évidemment sous de fausses identités, qui vont parfaitement utiliser l'orthographe, j'allais dire, de Twitter, c'est-à-dire d'utiliser ces mots dièses, ces hashtags qui permettent de croiser des informations, vont faire en sorte justement de saturer l'espace, de manière où à partir du moment où vous allez commencer à naviguer sur ce système d'information, vous allez à un moment ou à un autre être confronté à cette information qui va
donc
être rédigée.
On impose une forme de conversation entre guillemets.
En fait, on va rendre visible. Quand vous allez naviguer, passer du temps, c'est un peu comme si vous nagiez et que vous allez à un moment avoir à votre contact des objets flottants qui vont venir se frotter à vous. Et ils sont rédigés de telle manière qu'ils vous incitent à cliquer ou ils peuvent corroborer des informations et des points de vue qui vous conviennent. Il s'avère que le modèle même des réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est? C'est la logique affinitaire. En clair, dès lors que vous exprimez un point de vue, l'algorithme va cartographier vos centres d'intérêt et va ramener à vous, de manière à ce que vous restiez plus longtemps sur le site, que vous puissiez justement y trouver une certaine satisfaction, à trouver des opinions comparables aux vôtres, va amener à vous des informations qui coïncident à vos centres d'intérêt. Et donc effectivement, en clair, dès lors que vous avez un centre d'intérêt, par exemple sur une opinion sur le Brexit, ça va être l'occasion de faire venir à vous des informations, alors en l'espèce, manifestement orientées. Par contre, se pose la question, et ça c'est déterminant, de l'attribution. Effectivement, on peut tirer des conclusions, dresser des hypothèses. L'attribution
oui,
mécanique...
D'où ça part? C'est-à-dire
voilà.
Le qui est
l'auteur,
derrière
l'imputabilité, oui. Qui est l'auteur? Et ça, effectivement, d'ailleurs, on revoit exactement le même scénario français lorsque Emmanuel Macron, face à Vladimir Poutine, alors là, par contre, avait désigné, et il l'a fait avec encore plus d'audace, des médias comme Russia Today, c'est-à-dire
Sputnik
que...
Aussi,
Sputnik, hein, c'est-à-dire que le président Macron a cité des médias qui ont pignon sur rue avec des entreprises, avec des permanents, des rédacteurs, des salariés. Là, en l'occurrence, lorsque Theresa May dit oui, la Russie avec un grand R et des comptes Twitter avec un grand T, effectivement, la Russie a beau jeu, justement, de jouer la passivité, de balayer ses accusations en disant si vous aviez des preuves, présentez-les. Sinon, ce sont des agressions en quelque sorte, ou en tout cas des accusations lancées en vain.
Sans fondement. Philippe Migaud, ce que l'on retient de cela, c'est que ça coûte pas cher, c'est une arme très peu coûteuse en fait.
Oui, bien entendu. L'information a toujours été une arme privilégiée, précisément parce qu'elle permet d'avoir une très grande influence sur l'opinion publique d'un État visé pour un prix relativement modique. Et il est bien évident qu'aujourd'hui, dans un contexte stratégique où la guerre est devenue quasiment impossible du fait de la nucléarisation du monde du fait des échanges économiques de plus en plus mondialisés, lorsque l'on veut nuire à un adversaire, l'arme de l'information est une arme qui est employée par tous, pas seulement par la Russie d'ailleurs.
On va en parler, évidemment. En même temps, il y a une question qui se pose, parce que on évoquait la difficulté de dire d'où ça part, l'attribution. Il y a une autre difficulté, c'est de dire quel effet exact. Il est impossible de dire en quoi ces élections ont ou pas été influencées, Philippe Migaud. C'est très difficile d'avoir des réponses à ces questions-là.
Écoutez, moi je me souviens en tout cas que lorsque le rapport des services de renseignement américains est sorti début janvier 2017, on leur demandait quelle était leur estimation sur l'impact qu'aurait eu des intrusions russes, une émission russe dans les élections américaines, et ils disaient qu'ils étaient incapables
de le dire.
Incapables de le chiffrer, et d'ailleurs ils se tiraient en disant qu'ils n'étaient c'était pas leur mission non plus. Donc
est-ce que c'est efficace en fait? Est-ce que c'est efficace? C'est ça une des questions.
Écoutez, moi la question que je me pose, très honnêtement, c'est si les moyens d'information, s'il n'y a pas de toute façon, bien au-delà de ce débat sur les intrusions russes, s'il n'y a pas une totale déconnexion entre les moyens d'information et les réactions de l'opinion publique. Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un décalage de plus en plus grand entre les opinions publiques en Occident ou ailleurs, et les médias. On a longtemps cru que les médias faisaient l'appui et le beau temps et commandaient les élections. On sait depuis quelques années maintenant que ce n'est plus le cas. Et que je prends l'exemple du référendum de 2005. Le référendum sur l'Europe de 2005, tous les médias français quasiment avaient fait campagne pour le oui. Tout le monde considérait que ceux qui voteraient non seraient des eurosceptiques, des europhobes et des affreux. Et l'opinion publique française a voté à 54% pour le rejet de la Constitution européenne.
Ouais, en même temps,
l'époque, il n'y avait Sputnik n'existait pas, Russia Today n'existait pas, les réseaux sociaux n'existaient pas.
Non, on est dans deux questions en même temps. On est dans deux questions différentes. La question que vous posez, elle est réelle. Évidemment, elle peut toujours se poser. Là, on est dans une autre question, quand même, Nicolas Arpajon, qui est de la façon dont on influe sur un débat via des faux acteurs qui n'existent pas, en fait.
En fait, ce qui est très difficile, c'est de. En fait, il faudrait demander aux gens, est-ce que vous avez pris votre décision? Est-ce que vous avez voté? Est-ce que vous avez pris telle ou telle orientation sur le fondement d'informations collectées sur Internet? Le problème, justement, de cette guerre de l'information, c'est qu'elle est diffuse. Elle est impalpable, elle crée une ambiance, une atmosphère qui, en fait, correspond d'ailleurs notamment à la jeune génération qui va vouloir, dès lors qu'elle est au contact d'une problématique, aller chercher sur Internet l'information avec une vraie culture du référencement, de la mise en ordre de l'information qui va faire... Vous savez, il y a une blague américaine qui dit où est-ce que vous pouvez cacher le corps de quelqu'un que vous venez de tuer, et on vous dit mettez-le en page 2 des résultats de Google, personne n'y va jamais. C'est un peu ça, c'est-à-dire que si vous avez une culture du référencement, vous pouvez en fait devenir la première source d'information des gens. Après, la question est de savoir, est-ce que cette information, elle va les inciter à prendre des décisions, à voter, à commettre des achats, à soutenir telle ou telle obédience? Et ça, c'est toute la question, et c'est très difficile à dire. Pourquoi? Parce que, évidemment, je pense que les gens ne sont pas capables de déterminer de manière précise l'événement, la bascule.
Et qu'est-ce qui a
voilà,
fait
pour un événement émotionnel. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, la généralisation à l'occasion, dans les pays démocratiques, de ce mode opératoire, de partis, de gens qui peuvent constater, en tout cas, que la manœuvre est en cours.
Alors, vous restez avec nous, Nicolas Arpajon, Philippe Migaud également. On poursuit cette conversation. On se demande ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de phénomène. Il est 23h20, l'info Julie Smul.
8000 manifestants à Paris, d'après le ministère de l'Intérieur, 40 000 d'après la CGT. Bataille de chiffres encore une fois ce soir après les manifestations contre la politique du gouvernement. 170 défilés dans toute la France. Aujourd'hui, 80 000 personnes en tout sont descendues dans la rue d'après la place Beauvau. Le numéro 1 mondial du tennis, Raphaël Nadal, remercie ce soir la justice française. Roselyne Bachelot est condamnée aujourd'hui pour diffamation. L'ex-ministre avait accusé Nadal de dopage à la télévision. Elle doit maintenant lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts. Être ivre dans les rues de Saint-Malo peut maintenant coûter très cher, jusqu'à 270 euros. Le conseil municipal décide ce soir d'augmenter l'amende pour ivresse manifeste sur la voie publique, somme qui correspond à la prise en charge par la police municipale plus la contravention à payer, une mesure qui sera mise en place à partir du 1er janvier 2018. Robert Mugabe ne veut pas démissionner. Le président du Zimbabwe est retenu chez lui par l'armée depuis hier. Coup de force des soldats dans la capitale Harare pour mettre fin à 37 ans de règne du chef de l'État. Et puis sa religion, c'était le théâtre. Le comédien Robert Hirsch est mort à l'âge de 92 ans aujourd'hui à Paris. 65 ans de carrière et plusieurs prix remportés, dont un Molière d'honneur. C'était en 1992.
France Info. Deuxième partie donc de notre table ronde sur la cybermenace russe. Londres accuse Moscou d'ingérence pendant le référendum sur le Brexit. Et en se demandant maintenant quelle réponse justement on peut donner, toujours avec Nicolas Arpagian, expert en cybercriminalité, et Philippe Migaud du Centre européen d'analyse stratégique. C'est difficile, Nicolas Arpagian, de répondre à ça. On n'est pas dans, comme dans du piratage où on...
Exactement, parce que en fait, les pays démocratiques sont mal à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'il y a la règle qui est la liberté d'expression.
Exactement.
Et donc, il faut éviter la censure préalable. Et donc l'idée est de dire, et nous avons, notre société a été fondée sur, c'est le cas dans votre média, liberté d'expression mais responsabilité. Vous pouvez dire ce que vous voulez mais par contre vous êtes responsable de ce que vous dites. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques jours, le 14 novembre, la commissaire européenne en charge du numérique vient d'ouvrir une consultation. Elle est accessible à vos auditeurs sur le site de la Commission européenne et en fait, l'Union européenne, donc les instances européennes disent, quelle est votre vision des fake news ? Qu'est-ce que vous suggéreriez. C'est intéressant parce qu'il y a deux questionnaires. Il y a un questionnaire pour les professionnels des médias, un questionnaire pour le grand public. Qu'est-ce qui est pour
les
vous
réponses seront sans doute pas les mêmes.
En tout cas, qu'est-ce qu'une, d'après vous, une fake news ? Qu'est-ce que vous suggérez et qu'est-ce que vous seriez prêt à accepter pour éventuellement encadrer et limiter cela ? Et c'est vrai que c'est une vraie question parce que vous avez mentionné tout à l'heure les vecteurs qui sont Twitter, Facebook. Vous voyez bien que là, on est des entreprises commerciales.
Et c'est difficile. Il y a la question de ces entreprises-là.
Exactement,
qui disent, nous, on n'est pas là pour faire de la...
Pourquoi elles pourraient le faire, et elles le font d'ailleurs au moment de la sectorisation et au moment de la cartographie à des fins de commercialisation publicitaire. Simplement, elles ne veulent pas endosser ce rôle éditorial et le fait d'être considérées comme un éditeur. Elles revendiquent le statut d'hébergeur. Pourquoi ? Ce sont des régimes juridiques différents. Hébergeur, vous n'avez pas de responsabilité a priori. Éditeur, vous l'êtes dès la première seconde de mise en onde ou de mise en ligne ou de mise en vidéo. Et donc, c'est vrai que là où vous avez, vous, par exemple, en tant que radio, une responsabilité et un cadre juridique, vous avez une entreprise comme Facebook, Twitter, etc., qui ont une activité jumelle comparable à la vôtre, mais qui sont dans un autre régime beaucoup plus léger en termes de responsabilité.
C'est pas du tout les mêmes.
Il est évident que cette disparité devra être encadrée parce que, manifestement, elle ne correspond pas à l'usage qu'en font les gens comme source d'information prioritaire.
Philippe Migaud, on voit que c'est difficile de mettre en place des règles internationales sur ces questions-là.
Mais c'est très difficile de mettre des règles en place sur ces questions-là pour une raison toute simple, c'est que enfin, vous remettez en cause la liberté d'expression, la liberté d'opinion, et vous risquez fort au bout d'un moment de développer des instruments de censure. Moi j'aimerais revenir sur quelque chose qu'on a dit tout à l'heure. Comment faire pour lutter contre les fake news ? Comment faire pour que les gens, sous le coup de l'émotion, ne se laissent pas aller à prendre des décisions qu'ils n'auraient pas nécessairement prises ? Mais je pense très honnêtement que quand on parle de ces réseaux sociaux, on a de plus en plus de gens qui savent parfaitement les utiliser, qui savent parfaitement organiser les réseaux sociaux de telle manière à ce que leurs réseaux sociaux, leur Facebook ou leur Twitter ressemblent de plus en plus à un fil AFP et de moins en moins à quelque chose qui colporte des informations non rigoureuses, parce que les gens sont de plus en plus avertis, de plus en plus avisés, et qu'ils ont appris, pour beaucoup d'entre eux, à faire le tri entre les médias crédible, sur Internet, sur les réseaux sociaux, et ceux qui racontent des fadaises.
Au détail près qu'il s'agit quand même des fois de savoir qui il parle, et on sait bien que qui parle, on sait bien que des comptes sont abrités sous d'autres noms, enfin tout ça c'est une réalité quand même. Je comprends votre souci, un, de lutter contre la censure, évidemment, deux, les gens ne sont pas tous dupes, bien sûr, il y a quand même des faux noms, des faux comptes, et on ne sait pas qui est derrière, c'est une réalité.
Qu'il y a des faux noms, des faux comptes, je vous répondrai que c'est quelque chose qui existe aussi dans la presse écrite. Moi j'ai été journaliste pendant une bonne dizaine d'années, j'ai travaillé avec des confrères qui écrivaient quelquefois des papiers qui dérangeaient, quand ils décidaient de déranger, ils écrivaient sous pseudo. Moi il y a quelque chose que quand même je voudrais souligner aussi, pourquoi ce succès des réseaux sociaux, c'est que sur les réseaux sociaux vous trouvez des énormités, vous trouvez des absurdités, vous trouvez des fake news, mais l'information, la bonne information, vous êtes sûr aussi de la trouver. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la presse écrite.
On a bien compris, excusez-nous, mais c'est un vrai débat, hein, encore une fois, mais on ne va pas faire énième fois le débat sur où est la vérité, quelle est la réalité entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Encore une fois, on peut le faire, c'est pas le cœur du débat, mais on a bien vu quelle était votre opinion là-dessus. Moi, je voudrais quand même conclure sur la capacité qu'il y a ou pas quand même, Nicolas Arpajian, à réagir, chacun dans son coin, chaque pays est isolé aujourd'hui, chaque pays fait comme il peut.
Le problème aujourd'hui, c'est que la vraie réglementation internationale, ce sont les conditions générales d'utilisation de chacune de ces grandes plateformes, Facebook, Twitter, etc. Parce que ce sont elles qui, à un moment, vont arbitrer que telle paire de seins que vous présentiez sur un article sur le cancer du sein et de la pornographie, et elle va le retirer, ou que l'origine du monde de Courbet est un tableau qui, d'après eux, ne devrait pas être mis en ligne. Et donc, c'est vrai qu'on va bien voir que c'est vrai que ce n'est pas satisfaisant de laisser à des opérateurs strictement commerciaux qui ont une approche publicitaire ou politique, mais au sens de leur origine, comme filtre et arbitre des élégances, en quelque sorte. Et c'est là où, effectivement, il revient aux États de se réapproprier et de redonner des obligations émanant de leur législation. Monsieur Migaud évoquait le statut de journaliste avec pseudonyme. Oui, mais il y a une chambre, 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, qui fait que si un journaliste écrit des choses, même sous pseudonyme, défavorable, on peut attaquer le directeur de la publication. Il faut mettre du droit et surtout de l'éducation. Faire en sorte que plus les utilisateurs soient éduqués à la consommation et l'absorption d'informations, miser sur l'intelligence des utilisateurs sera également une bonne chose.
Philippe Migaud, juste un dernier mot. Je vous laisse la parole pour le dernier mot. En deux secondes, vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas que la Russie. À votre avis, il y a d'autres États qui font ça, juste en quelques secondes.
Écoutez, oui, moi je me rappelle que dans le rapport qui avait été publié en janvier 2017, on reprochait aux médias russes notamment d'avoir montré une claire préférence pour Donald Trump au moment des élections. Est-ce que émettre une claire préférence pour un candidat ou pour un autre, c'est faire de l'influence? Est-ce que c'est faire de l'immixtion dans les affaires étrangères d'un pays? J'en suis pas sûr. Si c'est le cas, nous en faisons aussi.
C'est une question. À cette question-là, les rapports américains répondaient que oui. Mais merci en tout cas d'avoir été avec nous, Philippe Migaud, directeur du Centre européen d'analyse stratégique, et Nicolas Arpajian, directeur scientifique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.